C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
On replonge dans la politique vraiment ce matin avec le premier sujet parce qu'on sait que les oppositions ont ciblé Daniel Mécan et Marguerite Blais, les deux ministres, suite à ce scandale, évidemment, concernant les centres de soins de longue durée. Erron, plus spécifiquement, il y a eu ces fuites à Radio-Canada, également un livre. Et là, pour contrer cette vague, le premier ministre Legault a dit, ben, c'est finalement en dessous de tout. Et il y a eu une ovation des députés de la CAQ pour les deux ministres. Est-ce que c'était de trop, Nathalie?
Absolument, absolument, c'était de trop. Il y avait quelque chose d'extrêmement indécent et choquant dans ce geste qui a été posé jeudi dernier à l'Assemblée nationale, faut-il le rappeler. Et merci à Jean Bottary, préposé aux bénéficiaires de Haraden, qui a signé cette lettre ouverte dans la presse samedi dernier. Titre intitulé « Une ovation qui ne passe pas », il a bien raison. Parce que vous savez, en politique, il y a les dits et les non-dits. Et ça fait partie des non-dits, ce qui était le geste qui a été posé à l'Assemblée nationale. Puis le contexte, c'est que le Parti québécois avait déposé une motion pour la tenue d'une enquête publique. Sans surprise, les ministres et les députés de la CAQ ont voté contre cette motion. Ils auraient pu simplement se lever et dire, ben écoutez, je vote contre, député de machin truc, de ci, de ça, je vote contre. Mais là, c'est pas ça qui est arrivé. Au moment où Daniel Mécan et la ministre Marguerite Blais se sont levés, non seulement la députation caquiste les ont applaudis, mais non seulement à tout rompre, mais ils se sont levés. Donc, standing ovation, mesdames et messieurs, à l'Assemblée nationale jeudi dernier, pour deux ministres pour lesquels il subsiste un doute sur leur version des faits quant au scandale qui a émergé à Erron, mais qui a touché l'ensemble des CHSLD au Québec. Alors oui, c'était non seulement de trop, mais choquant et scandaleux, oui.
Luc?
Ben, moi, je dirais que c'est une facétie. C'est quelque chose que les députés font des fois. Ils font du filibustage. Ils haranguent l'opposition. Ils se lèvent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est tellement plate. C'est tellement difficile de faire passer une idée que... Il essaye des fois des moves comme ça. Alors, évidemment, c'était pas le meilleur, tu sais, mais bon, moi, je comprends le message que la CAQ a voulu passer à l'opposition et vice-versa. L'opposition, la CAQ a dit, regarde, non seulement, là, ta maudite motion sur l'enquête, là, on l'acceptera jamais, puis deux, en plus, t'es, regarde, on ovationne, toi. Fait que c'est pour dire, c'est assez, on veut plus en parler de ce débat-là, on a tout dit, il y a une enquête du ministère de la Santé et des Services sociaux, il y a une enquête de la coroner, ça a fait les manchettes pendant des mois et des mois, tout a été dit. Alors maintenant, vous ferez plus de points politiques avec ça, on est tanné. Bon, c'est baveux de leur part, là, je le dis, c'est baveux, là. Maintenant, c'est le genre de choses qui se fait à l'Assemblée nationale. Sur le fond, est-ce qu'on a besoin d'une enquête publique? Moi, ma petite idée, mais toi, Nathalie, t'en penses quoi?
Mais moi, j'étais pas très chaud à cette idée, honnêtement, d'une enquête publique, mais plus les révélations des journalistes, entre autres Aaron Derfel, Thomas Gerbet, le livre des trois journalistes de la presse, dont tu as assuré la préface, Paul, là, mm-hmm. 5060. Moi, je dis oui, effectivement, ça prend une enquête publique aujourd'hui pour qu'on puisse aller au fond des choses, parce que la version des ministres Blais et Mécan, il y a un doute qui subsiste. Est-ce qu'elles ont menti? Qu'elles ont fait par rapport au témoignage qu'elles ont livré devant la coroner Jeanne Kamel. Il y a encore trop de doutes qui persistent.
Mais moi, je pense que non. Dans le fond, tout n'a pas été dit. Oui, elles ont menti. Il y a quelqu'un qui a menti. Bon, Marguerite Blais, on l'a entendu clairement. C'est clair, là. Elle commence par dire à la commissaire j'ai averti le gouvernement, j'ai envoyé des courriels, j'ai demandé de passer pour réunion. Puis après ça, la commissaire à l'Assemblée nationale a dit non, j'ai jamais averti le gouvernement. Alors là, il y a un mensonge, c'est clair. Mais ce que je pense, c'est qu'on sait ce qui s'est passé. Le gouvernement n'avait pas de contrôle sur l'ensemble des CHSLD, encore moins sur les CHSLD privés. N'avait pas de contrôle. Il n'était pas prévu qu'il y en ait. Il n'y avait pas des équipes volantes, il n'y avait pas de la mesure régulière de la performance, de l'atteinte de cibles minimales, combien d'employés par lit, etc. Il n'y avait rien de tout ça. Rien n'était en place. Au contraire, on espérait que le privé nous débarrasse de ce genre de problème-là, qu'on n'ait pas à faire de la gestion. Et là, le privé nous téléphone un matin pour nous dire « J'ai personne, j'ai besoin du monde, arrivez. » Puis une fois qu'ils sont arrivés, on leur dit ben, « On n'a pas les chiffres, on n'a pas les papiers, les dossiers pour savoir combien il y a de morts, combien il y en a qui ont été malades, etc. » On n'a rien. Fait que le public s'est ramassé les culottes à terre dans cette situation-là. Une enquête publique, c'est ça qu'elle va nous dire. Alors, levez vos culottes, puis mettez-vous des indicateurs de gestion, ou bien faites plus affaire avec le privé, un des deux. C'est ça qu'elle va nous dire, l'enquête publique. On a-tu besoin de se faire dire ça?
Oui, mais en même temps, peut-être que l'enquête publique va arriver plus vite, ou la recommandation d'une enquête publique va-t-elle arriver plus vite qu'on pense, entre autres avec les recommandations de la coroner Jeanne Kamel. Peut-être qu'elle sera tentée, après avoir lu le rapport de la protectrice du citoyen, le rapport de la commissaire à la santé, les témoignages qu'elle a entendus, peut-être qu'elle va être tentée de recommander au gouvernement d'aller dans cette voie-là. Puis c'est sûr que le gouvernement ne veut pas aller dans cette voie-là. François Legault a tellement déchiré sa chemise dans lorsqu'il était dans l'opposition. Ben, l'exemple qui me vient en tête, c'est la commission Charbonneau. Moi, j'ai vécu là, l'épisode où, à tous les jours, l'opposition réclamait une commission Charbonneau. Le gouvernement dont j'ai fait partie a résisté pendant 2 ans. Est-ce que le gouvernement, cette fois-ci, sera résisté 2 ans pour résister encore bien longtemps par rapport à cette pression qui est exercée à tous les jours? Puis ça va être dans les priorités des partis d'opposition durant la campagne électorale. C'est pas fini, ce sujet.
Mais j'aurais une question pour revenir un peu à Mme Mécan et Mme Blais. Dominique Anglade a dit en fin de semaine qu'il y avait un double standard en politique, que les femmes n'étaient pas évaluée, n'était pas traitée de la même façon que les hommes. Une femme qui a du caractère, qui s'exprime, passe pour une hystérique, alors qu'un gars passe pour... Je veux t'entendre, Nathalie, là-dessus. Puis après ça, Luc.
Ben, tout d'abord, Paul, je sais que tu penses qu'on est peut-être ailleurs, qu'on est rendu ailleurs, mais moi, je partage pas ce point de vue-là. Non, pas du tout. Les femmes, quand on parle de double standard, là, c'est la façon, c'est notre perception qu'on a des femmes en politique. Remarque que ça n'excuse pas ce qu'une femme doit assumer comme responsabilité en politique, parce que je dis toujours que l'image, par exemple, l'image est plus importante que le message en politique. Et malheureusement, on porte pas le même regard sur une femme que sur un homme en politique. On est plus sévère à l'endroit d'une femme par rapport à son image. Mon Dieu, qu'elle a l'air fatiguée. Effectivement, combien de fois Dominique Anglade le disait en fin de semaine dans Le Devoir, elle doit même s'autodiscipliner pour éviter d'avoir l'air trop en colère, trop agressive, parce qu'on va l'accuser d'être hystérique. C'est encore ça, le monde dans lequel on vit en 2022 pour les femmes en politique. Je regrette, mais c'est ça. Moi, je l'ai vécu, cette réalité-là.
Non, ça, je comprends, mais exemple, que ce soit Mme Mécan et Mme Blais, ça change rien aux attaques qui leur sont adressés. Je veux dire, c'est elle qui était les ministres responsables.
Ouais, mais tu sais, c'est vrai que même. M. Robert, il en a fait une erreur puis une autre. Puis M. Bonnardel, avec son troisième lien, il n'a pas reçu d'accusation personnelle, là, à part de moi, mettons, mais à part les autres. Je veux dire, les gens sont...
Ben, Robert, je s'est fait maganer pas mal.
Robert, j'ai fait de maganer pas mal. Mais, mais regarde, moi, je suis bien mal placé. Je veux dire pourquoi. Toutes les femmes que je connais en politique, et j'en connais un maudit paquet, toutes disent la même chose que ce que Nathalie vient de dire. Toutes, sans exception. Puis moi, je suis persuadé du contraire. Mais comme ce sont toutes des femmes intelligentes, puis ce sont elles qui le vivent, et je me dis, elles doivent avoir raison. Mais je veux dire une affaire. Je vais te prendre un exemple. Désolé, moi-même. Je peux pas imaginer quelqu'un qui aurait reçu plus de colère que moi au moment où j'ai pris les décisions que j'ai prises. Je peux pas imaginer. Ça se peut pas. Des gens qui viennent sonner à ta porte à 4h du matin, qui t'insultent dans la rue, qui crachent, tout, là. Ça se peut pas. Je peux pas imaginer que si ça avait été une femme, ça aurait été plus dur pour elle.
C'est pas ça. C'est la perception qu'on a de la femme. Prenons un exemple concret, Luc. Là. Toi et moi, on fait la commission là, du lundi au vendredi. Là. Ouais. Si moi, là, je lève le ton un peu, OK?
Oui,
quoi? Je deviens très émotive. Je vais me le faire dire. C'est comme, mais voyons donc, ça ne passe pas une femme qui, que ce soit en politique, dans le milieu des affaires, mais une femme qui va lever le ton, qui va mettre le point sur la table. C'est pas perçu de la même façon, Luc.
Je sais, mais regarde.
Toi, sacré au micro, ça va passer. Moi,
oui,
je vais sacré au micro,
attends, ça ne passera pas. D'accord, peut-être. Peut-être quand tu sais que ça passe, puis toi, ça passe pas, ça se peut, là. Ça se peut, ce bout-là. Même pas, ça se peut, t'as raison. Mais, j'ai pas rencontré une personne dans ma vie, là, récemment, dans ma vie depuis que j'ai quitté la politique, là, qui me dit, ah, c'est drôle, on pensait que vous étiez arrogant. On vous regarde, là. Vous parlez au monde, hein? Ah, on était sûr que vous étiez arrogant. C'est certain. Certain. Puis, y a tout le monde, c'est unanime, là. Vous étiez un arrogant, un prétentieux, un maudit roi du plateau, un gars qui se crisse du peuple. Tout! Tu peux pas imaginer tout. Puis là, je te parle pas des insultes plus insultantes, là. Mais, moi, ce que je pense, c'est quand tu mets ta face, puis que tu fais quelque chose dans la vie, n'importe quoi, là, ben, tu vas manger un coup de bâton. Que tu sois un gars, que tu sois une fille, tu vas manger un coup de bâton.
Oui, je suis d'accord avec ça, Luc. Je remets pas ça en question. Mais si tu poses la question, Luc, par rapport à la réaction que les députés ont eue à l'endroit de Danielle Mécan et Marguerite Blais, ça n'a rien à voir avec le double standard.
Non.
Elles sont là, elles doivent assumer. Mmh. Ce que Dominique Anglade a dit, c'est autre chose. Elle a dit autre chose. Elle a révélé, dans le fond, pas révélé, mais elle a témoigné de ce qu'elle vit comme chef de parti. Puis parlez-en, Pauline Marois, tu l'as dit, Luc, toutes les femmes que tu tu connais, ont témoigné de ce double standard qui existe. On est beaucoup plus sévère avec les femmes. En fait, nos exigences sont beaucoup plus importantes. Et puis, c'est pas long qu'on on va peut-être souvent clouer une femme au pilori, peut-être plus vite que les hommes, parfois. Enfin, si tu nous poses la question, c'est parce que ça te chicote, là.
Ben, c'est-à-dire que Jonathan en a parlé ce matin, j'ai vu les propos de Mme Anglade. C'est-à-dire que des comportements qui sont pas plus acceptables que, tu sais, tu dis, si je hausse le ton, je deviens agressif, puis les gens me font un procès. Ben, je peux dire qu'en milieu de travail, un gars qui se mettrait à hausser le ton tout le temps finirait aussi par se faire ramasser. Ce que je veux dire, c'est que je pense que les choses ont changé. Je dis pas que tout est parfait, là, puis je dis pas qu'il y a pas une différenciation. Mais c'est pas la même situation qu'il y a 10 ans ou 15 ans, je pense.
Mais moi, j'aimerais donner un petit conseil à Mme Anglade.
Oui.
Mme Anglade, vous êtes très bonne. Puis dites-vous bien une chose. Chaque fois que vous faites engueuler, agresser, accuser, vous gagnez des votes.
Faites des sens uniques, Mme Anglade, ça marche. au retour, on va parler de nationalisme économique.
La commission Normando-Ferrandaise.
Deuxième sujet quand même intéressant, le nationalisme économique du gouvernement actuel, donc du premier ministre Legault, c'est bon ou c'est mauvais pour l'économie du Québec? Au premier réflexe, on se dirait c'est bon.
Oui.
L'achat local.
Ah, c'est bon, c'est bon.
Ouais. T'en vas où, là?
J'arrive.
OK.
Là, donc, oui, mais, tu sais, adéquation, problème, solution, là. C'est-à-dire, ça, c'est mon mot-clé, hein. Je sais pas si les gens qui me suivent un peu ont compris ça. Mon mot-clé, mon concept-clé, là, c'est adéquation, problème, solution. Voilà. En d'autres mots, tu régleras pas le sort de la planète en faisant des ruelles vertes. Tu régleras pas le sort de la faim dans le monde en faisant de l'agriculture urbaine. Oui aux ruelles vertes. Oui à l'agriculture urbaine. Mais va pas t'imaginer que ça va régler le sort de la planète, OK? Pareil avec achat local. C'est super. Il y a plein de domaines dans lesquels ça marche. Puis là, l'outil qu'Investissement Québec a une stratégie. Ils rencontrent les investisseurs. Ils regardent avec eux leurs produits. Ils ont un inventaire de producteurs québécois. Ils regardent s'ils sont capables de faire du maillage. Là, lui, il pourrait t'aider pour ça. Il pourrait t'aider pour ça. Donc, aussi, ils ont une analyse de la situation qui est intéressante. Ils disent, c'est pas vrai que tu sauves tant d'argent que ça quand tu vas à l'international, parce qu'il y a des voyages. S'il y a de la mauvaise qualité, tu reçois ton container, faut que tu le renvoies. Il y a des délais, il y a toutes sortes d'affaires. Eux, ils estiment que les coûts à l'international sont 20% plus élevés que ceux qui arrivent sur ta facture, d'une part. Puis d'autre part, il y a des risques. Mais, pas avec ça. C'est pas demain matin. Demain matin, là, on fera pas des SUV au Québec ou des autos au Québec. Bernard Landry a essayé toute sa vie, là. On n'en fera pas. On va pas se mettre à faire des téléviseurs, là. Les téléviseurs, ils vont se faire en Corée. On va pas se mettre à faire... On va faire des avions, par exemple. Est-ce que c'est quelqu'un qui pense que le Rwanda, demain matin, pourrait se mettre à faire des moteurs d'avion? Non, ça se fait au Québec. Alors, il y a des trends, il y a des tendances grosses, là. Les jeans, maintenant, ça se fait plus. Ça se fait dans les pays où on fait des jeans, avec des usines gigantismiques. Puis ils ont quoi, ces usines-là? Ils ont plusieurs choses. Ils ont du volume. Ils servent... Une usine dessert 40 pays, là, t'sais. Le jeans, il sort pas cher, premièrement. Deuxièmement, ils ont de l'expertise. C'est plus ce qu'on pense que c'était avant, là, où t'as des gens sur des petites machines à coudre qui marchent au pétrole. C'est des énormes systèmes, t'sais. Puis les innovations rentrent là-bas, puis les fournisseurs aussi. La chaîne, parce que la production, c'est une chaîne, c'est un réseau. Il y a des fournisseurs de matières, il y a des fournisseurs de machines, il y a des fournisseurs de procédés, il y a tout. Il y a des gens, il y a des impartiteurs, il y a tout. Tu transporte pas cette chaîne-là du jour au matin dans un autre pays.
Ben lorsque le gouvernement adopte des mesures pour mettre en valeur les produits québécois, moi, oui, c'est bon, effectivement. Puis c'est pas la première fois qu'un gouvernement fait ça, là. Il y a d'autres gouvernements avant celui de M. Legault qui l'ont fait. Par contre, dans le cas de M. Legault, ce qui est différent, c'est qu'on pousse l'idée du nationalisme plus loin que ce que d'autres gouvernements ont fait avant. Nationalisme identitaire, nationalisme économique. Vous avez remarqué, là, la fleur de lys, là, est utilisée, là, vraiment, je vous dirais, de façon... importante, là, presque abusive dans certains cas. Alors, c'est du fleur de lys mur à mur. Par contre, lorsque le gouvernement favorise une entreprise au détriment de d'autres entreprises concurrentes, là, moi, je décroche. Là, j'ai dit ça, c'est mauvais pour l'économie. Et malheureusement, dans le cas du gouvernement caquiste, on confond souvent nationalisme économique avec favoritisme. Et l'exemple qui me vient en tête, c'est un exemple qui a été médiatisé, qui a été commenté par certains analystes de la scène en politique publique. Là, autobus justement de Drummondville qui n'a pas accès au même crédit d'impôt que Lyon Électrique, par exemple, à Saint-Jérôme. Autobus Thomas qui fait dans les autobus électriques, mais parce qu'une partie de ces autobus sont assemblés par Daimler, qui est un géant allemand aux États-Unis, n'a pas droit au crédit d'impôt. Conclusion, ben, ils ont déjà congédié une quarantaine d'emplois parce qu'ils vendent plus de véhicules électriques, d'autobus électriques au Québec. Là, on semble, le gouvernement, par ses politiques, semble favoriser un joueur qui est Lyon Électrique. Ça, c'est totalement inacceptable.
Mais je vais soulever quand même quelque chose, surtout après ce que Luc a dit. Moi, là, il y a un constat que je fais. Avec la pandémie puis la guerre, là, la dépendance face aux autres est devenu de plus en plus clair. On n'est pas le seul endroit au monde là où on développe des politiques. Tu sais, exemple.
Les risques, il y a des risques.
Les États-Unis, le protectionnisme,
oui,
absolument.
Il y a des risques, mais de se dire, on va produire nos propres équipements de protection pour pas dépendre des importations chinoises quand arrive une crise. Ouais. Il me semble que c'est bien correct.
Oui.
De dire, on va s'auto-suffire sur le plan alimentaire pour pas être dépendant, par exemple, d'un paquet de produits qui arrivent des États-Unis.
Puis il y a aussi les vaccins.
Des vaccins qu'on peut acheter. Ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que le nationalisme économique, ça peut conduire à des excès peut-être,
ouais.
Mais ça a raison d'être encore plus aujourd'hui. Ouais. Moi, je regarde, là,
oui.
tu dis, OK, l'Ukraine est en guerre, l'Ukraine qui alimente les usines de voitures en Allemagne qui ne peuvent pas livrer. T'sais, tu ne peux pas refaire tout au Québec, mais tu essaies d'être le moins dépendant possible des autres.
Oui, mais dans certains produits, ça va marcher, là. C'est clair, ça va marcher, puis il faut le faire. Il y a eu la pénurie des conteneurs. Les conteneurs, ouais. On n'est pas sûr de comprendre s'il y a une pénurie ou s'il y a eu une congestion ou s'il y a eu une affectation des conteneurs. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il n'y en a plus. Il y a eu, après ça, des inondations. Il y a eu des grèves dans des pays comme l'Indonésie, la Chine, la Malaisie, qui font des produits pour les marchés internationaux. Et il y a des gens qui attendent leurs produits. Les vélos, parce qu'il y a eu une augmentation de la production de vélos, mais il y a deux usines qui font des vélos en carbone dans le monde, deux en Chine. Puis ils font tous les vélos en carbone de toutes les véhicules. Quand tu dis, le beau vélo québécois, là, il est fait à la même usine que le beau vélo allemand, là. Parce qu'on a des assembleurs, on a des concepteurs, mais tout se fait dans un endroit. Si cette usine-là ferme, là, t'as le bec à l'eau, puis pas à peu près. Et ce qui est surprenant, c'est que même quand la pénurie est gigantesque, puis elle dure, le problème se règle pas. Parce qu'on va pas venir faire une usine de carbone ici au Québec. Alors, oui, il faut s'y prendre d'avance, puis regarder les produits stratégiques, puis dire, OK, ce produit-là, pas question qu'on reste dans la chaîne d'approvisionnement internationale.
Nathalie.
Mais si le nationalisme économique, c'est habiller Paul pour déshabiller Jacques, là, ça, c'est contre-productif et je décroche. Par contre, si c'est comme tu le dis, Paul, pour devenir davantage autosuffisant et moins dépendant des autres juridictions, j'y parfait, j'achète ça. Par contre, on vit pas dans un monde de câlinours. On vit dans un monde qui s'appelle, sur le plan économique, dans un écosystème qui s'appelle la mondialisation. Et la guerre en Ukraine fait questionner beaucoup d'experts en la matière. Est-ce que c'est la fin de la mondialisation, le début de quelque chose de nouveau? Mais clairement, lorsqu'on regarde le Québec, c'est un très petit joueur. On dépend des États-Unis, là, sur le plan commercial, là, à quoi? Presque 52 % la Chine, plus de 9 % Alors, c'est pas vrai que le Québec va pouvoir, même si on pousse le nationalisme, là, au bout de sa logique, c'est pas vrai qu'on va pouvoir s'autosuffire. Mais clairement, cette prise de conscience, oui, c'est bon. Mais en même temps, il faudrait s'organiser pour éviter l'exemple d'autobus Thomas, parce que si nationalisme économique est synonyme de favoritisme politique, moi je me dis un instant,
moi, je
là,
pense
on a
que
problème.
Ce mais ce que Investissement Québec veut faire, c'est pas du nationalisme économique. Eux, ils veulent faire du maillage. Ils veulent mettre en relation des petits fournisseurs qui sont très spécialisés. C'est un gars qui produit que des serres pour faire des fruits et légumes a besoin d'un nouveau système d'aération. Ben, OK. Tel gars en mécanique de précision peut t'aider. Tel gars en électricité peut t'aider.
On a vu ça dans le passé. Donc, on a eu les créneaux d'excellence, les grappes industrielles. Rappelez-vous dans le temps de Gérald Tremblay.
C'est la suite.
Créneaux d'excellence, absolument, c'est la suite.
Merci à tous les deux. On vous retrouve demain en espérant qu'il n'y aura plus de neige.
C'est 23.